Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Qui, de Claire Parker ou d'Alexandre Alexeïev, inventa l'écran d'épingle ? Claire Parker, seule la première, ou elle et Alexandre Alexeïev, son mari ? Toujours est-il qu'ensemble, ils exploitèrent ce procédé utilisant un écran constitué de milliers d'épingles qui, plus ou moins enfoncées et éclairées savamment, permettent la création d'images pour la réalisation de films d'animation. C'est en ayant recours à cette technique, au rendu proche de la gravure, qu'ils tournèrent quantité de films des années 30 aux années 70, dont bon nombre de films publicitaires. En 1965, c'était Alexandre Alexeïev sans Claire Parker qui était invité à dire ce que signifiait pour lui le mot « vacances » dans « Impromptu de vacances », l'émission d'Harold Portnoy. Graveur, illustrateur et donc réalisateur, Alexeïev se souvenait de quelques instants magiques de ses voyages, de ses vacances, dans lesquels l'accompagnait toujours une part de sa bibliothèque. Un impromptu de vacances qu'il avait choisi d'ouvrir et de terminer avec des textes de Lucien de Samosate.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Alexeïev, assistant Jean-Marc Siafarikas.
Pendant un jour et une nuit, nous eûmes un bon vent qui nous laissa en vue de la terre sans nous emporter trop au large. Mais le lendemain, au lever du soleil, la brise devint plus forte, les flots grossirent, l'obscurité nous enveloppa, et il ne fut plus possible d'amener les voiles. Forcés de céder et de nous abandonner au vent, nous fûmes battus par la tempête durant 79 jours. Mais le 80e, au lever du soleil, nous aperçûmes, à une petite distance, une île élevée couverte d'arbres et contre laquelle les flots allaient doucement se briser. Nous nous dirigeons vers le rivage, nous débarquons, et comme il arrive à des gens qui viennent d'être violemment éprouvés, nous nous étendons pendant longtemps sur la terre. Enfin, nous nous levons, nous en choisissons 30 d'entre nous pour garder le navire, et je prends les 20 autres avec moi pour aller faire une reconnaissance dans l'île. Parvenus au travers de la forêt, à la distance d'environ 3 stades de la mer, nous voyons une colonne d'airain portant une inscription en caractère grec, difficile à lire, admis effacé et disant « Jusque-là sont venus Hercule et Bacchus. » Près de là, sur une roche, est à l'empreinte de 2 pieds, l'une d'un arpent, l'autre plus petite. Je jugeais que la plus petite était celle du pied de Bacchus et l'autre d'Hercule. Nous adorons ces 2 demi-dieux et nous poursuivons. À peine avons-nous fait quelques pas que nous rencontrons un fleuve qui roulait une sorte de vin semblable à celui de Kyo. Le courant était large, profond et navigable en plusieurs endroits. Nous nous sentons beaucoup plus disposés à croire à l'inscription de la colonne en voyant ces signes manifestes du voyage de Bacchus. L'idée m'étant venue de savoir d'où partait ce fleuve, je remonte le courant et je ne trouve aucune source, mais de nombreuses et grandes vignes pleines de raisins. Du pied de chacune d'elles coulait goutte à goutte un vin limpide qui servait de source à la rivière. On y voyait beaucoup de poissons qui avaient la couleur et le goût du vin. Nous en pêchons quelques-uns que nous mangeons et qui nous enivrent. Or, en les ouvrant, nous les trouvons pleins de lie. Aussi nous prîmes plus tard la précaution de mêler des poissons d'eau douce à cette sorte de mets afin d'en corriger la force. Après avoir traversé le fleuve à un endroit agréable, nous trouvons une espèce de vigne tout à fait merveilleuse. Le tronc, dans sa partie voisine de la terre, était épais et élancé. De sa partie supérieure sortaient des femmes, dont le corps, à partir de la ceinture, était d'une beauté parfaite, telle que l'on nous représente Daphné changée en laurier au moment où Apollon va l'atteindre. À l'extrémité de leurs doigts poussaient des branches chargées de grappes. Leur tête, au lieu de cheveux, était couverte de boucles qui formaient les pampres et les raisins. Nous nous approchons. Elles nous saluent, nous tendent la main, nous adressent la parole, les unes en langue lydienne, les autres en indien, presque toutes en grec, et nous donnent des baisers sur la bouche. Mais ceux qui les reçoivent deviennent aussitôt ivres et insensés. Cependant, elles ne nous permirent pas de cueillir de leurs fruits, et si quelqu'un en arrachait, elles jetaient des cris de douleur. Quelques-unes nous invitaient à une étreinte amoureuse, mais deux de nos compagnons s'étant laissés prendre par elles, ne purent s'en débarrasser. Ils demeurèrent pris par les parties sexuelles, hantés avec ces femmes, et poussant avec elles des racines. En un instant, leurs doigts se changèrent en rameaux, en vrilles, et l'on eût dit qu'ils allaient aussi produire des raisins.
Alexandre Alexeïev, pourquoi avez-vous choisi ce texte pour commencer l'impromptu de vacances qui vous est consacré?
Parce que lorsque je pars en vacances, mon premier souci est de me constituer une bibliothèque. J'emporte avec moi trop de livres et pas assez de cravates. Je fais en sorte d'assortir les lieux où je me rends au songe que je me propose d'y faire. Celui que vous venez d'entendre est de Lucien de Samosate et j'y songeais l'ayant lu sur place, sur une des îles Baléares, dans un lieu en ce temps-là méconnu des touristes, bien loin de la civilisation, où, regardant les rochers au matin, les rochers qui surplombaient l'eau, j'entrevoyais à l'ombre des voiles des bateaux de pêche amarrés, les Argonautes. Du reste, l'illusion était parfaite par le son des conques de l'appel des pêcheurs venant du lointain, que je ne pouvais voir.
Selon quels critères associez-vous les livres et les lieux?
Tout simplement, j'aime entrer dans un hôtel très confortable, prévu pour soigner 300 personnes capables de payer bien, hors saison, lorsque le jardin, avec des tables et des chaises, toutes préparées pour recevoir les 300 personnes, sont vides, tout est à moi. Je suis seul, sinon avec la femme que j'aime, un ou deux amis, une ou deux amies, c'est alors que je me sens heureux. Je m'écarte donc des chemins battus dans le choix de mes livres aussi. J'aime choisir les livres dont la lecture n'est pas, elle non plus, encombrée.
Est-ce que vous faites la même chose avec les lieux?
Et d'abord, je ne sais pas toujours dans quel lieu je vais me rendre. Par exemple, cette année-ci, nous étions partis avec ma femme au festival d'Annecy. C'était un festival de films d'animation, un festival professionnel. Nous allions passer une semaine, après quoi nous proposions de montrer à une amie canadienne une partie d'Europe qu'elle ne connaissait pas. Et nous ne savions pas du tout où nous allions aller. Alors on a roulé pendant 6 semaines dans les Alpes. On était tout le temps en face de l'imprévu, en face de la nouveauté. Et je crois que, puisque notre sujet est bien celui des vacances, l'intérêt des vacances, pour moi, est la nouveauté à laquelle j'attache la plus grande importance puisque je suis artiste. Je tiens que la préoccupation essentielle de l'artiste est de combattre l'accoutumance, c'est-à-dire le quotidien. Je ne vois l'atelier que j'habite à Paris qu'à un très bref moment, Lorsque je rentre des vacances, le reste du temps, pendant 10 ou 11 mois de l'année, je ne le vois pas.
Je crois qu'il s'agit là d'un thème intéressant, le thème du retour des vacances.
C'est un beau sujet. Eh bien, lors du retour des vacances, je les revis. Je revis les moments les plus importants de mes vacances qui sont, au fond, toujours, comme d'ailleurs, j'imagine, pour tout le monde, un dépaysement. Non, peut-être pas pour tout le monde. Peut-être pas pour tout le monde, il y a encore des gens fortunés, heureux, qui ont une maison familiale où ils sont nés, où ils reviennent depuis des années pour retrouver une autre vie, une autre moitié d'eux-mêmes. Pour moi qui suis un exilé, un expatrié, un homme détaché du sol, je suis comme une algue sans racines qui flotte dans les hasards de la vie. Et j'aime la nouveauté. J'en ai fait de cette nouveauté que la vie peut-être elle-même m'avait imposée. Le hasard, la chance, le destin m'ont imposé. J'en ai fini par faire un drapeau. Alors donc, en rentrant de vacances, je revis ce que j'y avais vécu de nouveau, de neuf. Ce que ma sensibilité a reçu de frais, qui n'était pas une répétition. Par exemple, vers un instant, un des instants privilégiés des vacances de ce début d'été, nous passions relativement vite en voiture décapotée par un village de la Suisse romande, ma femme conduisant, lorsque j'aperçus sur la gauche une grande maison, très grande comme elles sont bâties, dans les montagnes, et toute décorée d'une manière extraordinaire. Elle portait des décorations non figuratives, d'un style qui ne m'était pas connu, qui était, je dirais, géométrique. Et pourtant, ce n'était pas des décorations modernes, c'était des décorations anciennes. Alors j'ai dit, vite, arrête-toi, arrête-toi. C'était difficile de s'arrêter parce que la rue était étroite, la route passait par cette rue du village, les voitures y passaient en vitesse, c'était dangereux. On a trouvé un endroit où on se serrait contre une maison, derrière un perron, et nous sortîmes sur la place pour admirer la maison. Elle était extraordinaire et mon amie canadienne aussitôt a armé son appareil photographique pour en prendre des images. Pour une fois, j'étais content qu'il y ait une caméra auprès de nous dans l'espoir de la retrouver. Car moi, qui professionnellement ai consacré la moitié de ma vie au cinéma d'animation, je n'ai de ma vie pris une seule photographie. Je déteste ça.
Pourquoi ?
Ah, je déteste ça parce que cela m'empêche de vivre ce que je vois. Je trouve que cette manière de faire de la conserve, de faux souvenirs, car celui qui photographie ne regarde pas. Il compte sur la photo pour revoir, pour voir plutôt même, plus tard. Pas pour revoir, puisque sur le champ, lorsqu'on photographie, on ne voit même pas. Voyez-vous, il se passe des choses mystérieuses avec les souvenirs. Sur le champ, on ne sait jamais de quoi l'on se souviendra. Ce n'est que plus tard qu'on apprend les choses dont on se souvient parce qu'on s'en souvient.
Et la photo, évidemment, oblige.
Oui, seulement, c'est un faux souvenir. Ce n'est pas un vrai souvenir. Un vrai souvenir est filtré par la personnalité de celui qui se souvient. La photo est impersonnelle. Elle ne donne ni l'air, ni les parfums que, sans s'en rendre compte, l'on peut aspirer à l'instant. On sait que rien n'est aussi mnémonique que les odeurs. Ni la lumière qui vous enveloppait, ni les paroles qui avaient été dites avant ou après, ni le vin que l'on avait peut-être bu ou que l'on n'avait peut-être pas bu, ou le café, ni les songes qui vous avaient visités la nuit auparavant, qui avaient donné la couleur à l'instant que l'on vit. S'accrocher aux photographies, pour moi, c'est comme s'accrocher aux objets. Je néglige les objets. Je pense que, voyez-vous, il n'y a que les souvenirs qui soient vrais. Quant aux souvenirs que l'on vend dans les magasins, et aux cartes postales, et aux photos, et aux documents, et aux colliers, et aux bagues que les femmes reçoivent le jour du mariage, je n'y crois pas.
Un tableau, n'est-ce pas un objet ?
Le tableau, oui, mais j'ai appris à négliger même les tableaux. Regardez autour de nous. Vous êtes dans l'atelier d'un peintre.
Je vois des objets.
Qui n'a pas fait moins de 20 000 images, dont la plupart dépassent le mètre carré en dimension. Vous n'en voyez pas autour de nous.
Non, mais je vois tout de même des objets. Je vois un poisson stylisé. Je vois un ours.
Oui.
Je vois une cruche au ventre bombé.
Oui.
Je vois, qu'est-ce qu'il y a sous cette cloche ?
Oui, ce sont des petits objets en bois blanc sculptés au canif par des habitants de certaines îles japonaises. Tout cela, c'est une courtoisie envers des amis qui m'ont fait cadeau de ces objets.
Et cette femme derrière ce...
Cette femme, c'est un objet d'utilité. Cette femme est l'Aphrodite de Fiesole, une des sculptures antiques les plus parfaites dont je me suis servi il y a plus de 10 ans pour faire un film. Un film pour un fabricant de savon. Elle est là parce que je me dis que ce serait dommage de la faire casser et qui sait, peut-être pourrait-elle encore me servir. Et puis enfin, il faut tout de même que les gens, en entrant chez moi, ne se sentent pas tout à fait dans un hôpital.
Quel est le rapport entre un fabricant de savon et cette femme ? C'est un rapport qui n'a aucune
valeur. Ah oui, c'était
très
difficile. C'était très difficile. Il s'agissait de faire une réclame pour un savon. Et il se trouve, puisque vous me posez la question, il faut bien que je dise comment il s'appelait. Il s'appelait Mon Savon. Par quel chemin la gestation d'un problème parvient-elle à se résoudre d'une façon concrète ? Personne ne l'a jamais su, je n'en sais rien. Mais enfin, pour ce problème particulier, j'avais remarqué que puisque le nom avait de particulier le « mon », je pourrais peut-être fonder sur le mot « mon » tout l'argument publicitaire. Et comme il est bien connu que les gens, du moins les hommes, aiment beaucoup voir les nus féminins, je m'étais dit, du moins la moitié de l'auditoire sera conquise, si elle voit une femme au naturel. Mais le moment, que pouvait-il y faire ? C'est alors que je me suis aperçu de la chose que l'on ignore, c'est que les parties du corps humain, presque toutes, sont en français en masculin. Mon cou, mon coude, même quand c'est au féminin, c'est mon épaule, mon sein, mon ventre, mon genou. Parfaitement.
Je n'avais pas pensé du tout à ça.
Mon parfaitement, mon dos, descendons toujours, tournons la statue, le résultat était formidable. On voyait le mon épousé, les formes de quelque chose, on ne savait de quoi. Des galbes. On ne voyait pas la statue. Puis, petit à petit, le détail de la statue se dégageait. Mon cou, mon épaule, mon front, ça devient plus intéressant. Mon sein, mon ventre, l'auditoire s'excite, etc. Et puis, on finit par dire... ou plutôt par chanter, que j'avais fait faire une petite chanson. Moi, ça va.
Mmh.
Revenons à notre propos. Nous parlions d'objets. Vous nous disiez que les objets, au fond, ne comptaient pas pour vous. Par contre, j'ai eu l'impression que l'amitié compte. L'amitié...
Vous ne vous doutez pas combien juste vous tombez. Car j'allais poursuivre l'instant d'arrêt dans le village suisse. Nous voici donc devant la maison très grande, ornée avec de dessins géométriques que mon amie canadienne photographie.
Non figuratif.
Non figuratif et bien sûr géométrique, extraordinaire, d'un style particulier que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, je sens dans ma main droite quelque chose qui se glisse contre ma paume, quelque chose de petit, de tiède. Et je sens une petite main d'enfant qui serre la mienne. Je tourne la tête à droite, je vois un tout petit garçon de 4 ou 5 ans, aux cheveux noirs et droits, qui me tenait par la main. J'étais si touché de ce témoignage de confiance. Pourquoi est-il venu vers moi pour me donner sa main, pour se laisser mener par moi? J'étais si touché que je m'inclinais spontanément et, selon l'usage du pays où je suis né, la Russie, je le baise sur le sommet de sa petite tête, sur ses cheveux noirs. Là-dessus, il avance sa tête et baise ma main. Ah là, alors, je lui dis, alors tu viens avec moi. Mais nous ne parlions pas la même langue. Lui me répondait en romanche. Il ne me comprenait pas très bien. Nous avançons et je me dis, apparemment il veut se promener, on ne lui permet pas de traverser la rue où les voitures passent en trombe. Nous faisons quelques pas et je me dis, tiens, mais lorsque j'étais autrefois en Sicile, le grand moyen de lier l'amitié avec les petits-enfants, c'était leur donner des bonbons. Je me rappelle que j'ai une boîte de bonbons très accessible dans la voiture. J'y vais, je sors des griottes de Lyon, auxquelles je n'avais pas encore touché. Un ami me les avait donné par erreur, croyant que c'était des cerises à la liqueur, alors que c'était des cerises, oui, mais dans des bonbons fondants. Alors, je lui offre la boîte à choisir. Il prend un bonbon, aussitôt un second, et encore le troisième. Je dis, bon, maintenant tu t'arrêtes. Je referme la boîte, mais je la prends avec moi, et nous engageons dans la tournée du village. Aussitôt apparaissent deux autres enfants. J'ouvre la boîte, un bonbon à chacun. D'autres enfants arrivent, nous allons chercher tous les enfants du village. On distribue les bonbons, la boîte en était pleine. C'était la fête. Nous nous mettons à danser sur la place centrale du village avec mon petit ami. Je lui avais demandé son nom. Il me disait quelque chose comme Alphonse, Alfred. Je n'arrivais pas à comprendre. Je m'adresse à une brochette de vieillards, ils étaient 18, assis le long d'un même banc sur la place. Comment s'appelle-t-il? L'un des vieillards me répond, il s'appelle Alvaro. Parfait, dis-je, Alvaro, continuons la tournée. Ah, c'était une orgie d'enfants, une orgie de bonbons. Pour finir, il fallait tout de même partir lorsque je m'aperçois qu'une jeune fille de peut-être 14 ou 15 ans, pieds nus et qui balayait un perron, nous regarde, s'arrête avec son balai à la main. Je me dis, est-ce que je vais lui offrir un bonbon? Elle pourrait peut-être prendre cela pour une avance d'un passant. Non. Nous continuons la tournée et je retrouve l'amie canadienne et ma femme. Je dis, on va partir. Lorsque je vois sur le perron d'une autre maison, de nouveau la dite jeune fille de 14 à 15 ans, avec son balai, je dis à ma femme, écoute, voilà la boîte à bonbons, va lui en offrir un. Claire, qui me fait toujours confiance, ne me demande pas pourquoi. Elle va lui offrir un bonbon que l'autre mange. Là-dessus, j'embrasse mon ami Alvaro pour la dernière fois, et nous partons. La voiture avait déjà pris de la vitesse, lorsque j'ai aperçu encore le petit Alvero qui nous avait déjà devancé dans la rue, qui vous fit signe d'amitié avec sa main. Oui, j'aime l'amitié. J'aime l'amitié parce que l'amitié, c'est la confiance. Je sais maintenant que j'ai un ami qui porte un nom ravissant, qui s'appelle Alvero. Que deviendra-t-il lorsqu'il connaîtra la vie quotidienne avec ses soucis?
Dès que vous avez parlé de l'enfant, les auditeurs du reste l'ont bien senti, vous avez été exalté, enfin.
Je dois dire, pendant peut-être 60 ans de ma vie, je n'ai pas aimé les enfants. Et c'est encore pendant les vacances, pendant un voyage, que je compris, que j'avais compris que j'aimais les enfants. J'en avais peur auparavant. Ça s'était passé ainsi en Italie. On voulait rentrer de Venise, nous étions attrés dans le wagon 3e classe, qui était bondé de monde. Nous portions nos affaires dans des rucksacks sur le dos. À peine si on a pu entasser les deux rucksacks l'un sur l'autre, dans un recoin du couloir, près des toilettes. Il faisait une chaleur torride. Et dès le début du voyage, il y avait une telle cohue que finalement nous sortîmes à Vérone. À Vérone, ma chemise était en lambeaux. Vous pouvez figurer de la cohue qu'il y avait dans le train. Or donc, dans cette cohue, voici que j'apercevais un petit garçon avec sa maman. Et je me dis, il ne va pas rester écrasé par tous ces adultes qui l'esquichaient entre eux, tout près de ce sale plancher pendant tout le voyage. Je le prends dans les bras. Comme toujours, pour un homme, c'est une surprise de sentir combien un tout petit enfant peut être lourd. C'est effrayant ce que ça peut peser un enfant de 4 ans. De plus, j'appris le nom de ce petit protégé. Il s'appelait Sandrino. Alessandro, donc, comme moi. Et il se laissa faire. C'est cette confiance dont il me témoigna, peut-être, parce que j'étais un homme âgé, peut-être parce que je lui rappelais déjà un grand-père. Ou peut-être y a-t-il une affinité entre les petits-enfants et les hommes trop grands, c'est-à-dire trop vieux. Peut-être, je ne sais. Seulement, j'étais touché par la confiance de Sandrino, comme je fus touché cet été-ci par celle d'Alvero. Et je me suis rendu compte que la crainte que j'avais des enfants n'était pas que j'avais peur de l'enfant, mais que j'avais peur de l'effroi de l'enfant, de sa méfiance de moi. Ainsi, par exemple, lorsque je vis pour la première fois ma première petite fille, j'ai 3 petites filles et un petit-fils, lorsque je vis l'aînée pour la première fois, elle avait 3 ans. Elle sortait d'un souterrain car elle venait d'arriver par la voie déserte d'Amérique. C'est bizarre qu'aujourd'hui nous voyons les êtres aériens déboucher des souterrains comme des cigales. Lorsqu'elle me vit, Niki fronça les sourcils, baissa le front et dit, en faisant un geste de négation, un large geste de sa main droite, « Non !» Et elle prit peur, et j'avais peur. Et c'était de cette peur des enfants que moi, j'avais peur. J'avais peur de leur émoi, de leur effroi.
Au fond, vous aviez peur du contact.
J'aime tant la tendresse de l'enfant. Voyez-vous la petite main moite et chaude d'Alvero dans la mienne. Si, une petite main si fragile, on fait si facilement mal à un enfant sans savoir qu'on le fait. Ils sont tellement fragiles en leur sensibilité. Je ne dis pas qu'ils soient physiquement fragiles, je n'y crois pas du tout. Je crois au contraire qu'un bébé de 3 mois, par exemple, est une espèce de géant. Leur force est disproportionnée à leur taille. Sont extraordinaires. J'ai vu ma fille qui avait 6 mois peut-être écarter d'un bras une table de salle à manger en chaîne. Une table à laquelle 12 personnes auraient trouvé place.
Je reviens sur le thème de la tendresse qui me semble chez vous à la fois une marque de vulnérabilité, enfin il y a quelque chose de vulnérable en vous sur ce plan-là et en même temps de très fort. Je ressens ça un peu comme une crainte de votre part et en même temps un désir.
Oh oui, au fond, c'est ma préoccupation majeure. Ainsi, pour connaître le drame de la tendresse, qui est un drame pour tous, il faut la vivre. Chacun la vit à sa manière. Toute tendresse comporte un risque, le risque du refus. Et c'est l'inverse du refus, la confiance d'Alvero, qui est ma récompense. Et l'enfant, Alvero, dans sa générosité enfantine, m'en fit cadeau sans même que je l'y invite.
Vous avez prononcé le mot refus. Ce mot semble vous marquer.
Oui.
J'aimerais bien que vous précisiez de
forcément,
quelle façon.
Lorsqu'on vit longtemps parmi les humains, on rencontre ces derniers préoccupés par leurs propres soucis, par leurs propres souffrances, par leurs inquiétudes, leurs angoisses.
L'âge d'or naquit le premier, qui, sans répression, sans loi, pratiquait de lui-même la bonne foi et la vertu. On ignorait les châtiments et la crainte. Des écrits menaçants ne se lisaient point sur le bronze affiché en public. La foule suppliante ne tremblait pas en présence de son juge. Un redresseur des torts était inutile à sa sécurité. Jamais encore le pin, abattu sur ces montagnes pour aller visiter un monde étranger, n'était descendu vers la plaine liquide. Pas un mortel ne connaissait d'autres rivages que ceux de son pays. Jamais encore des fossés profonds n'entouraient les cités. Point de trompettes au long col, point de corps recourbés pour faire résonner le bronze, point de casque, point d'épée. Sans avoir besoin de soldats, les nations passaient au sein de la paix une vie de doux loisirs. La terre aussi, libre de redevances, sans être violée par le hoyo, ni blessée par la charrue, donnait tout d'elle-même. Comptant des aliments qu'elle produisait sans contrainte, les hommes cueillaient les fruits de l'arbousier, les fraises des montagnes, les cornouilles, les mûres qui pendent aux ronces épineuses, et les glands tombés de l'arbre de Jupiter aux larges ramures. Le printemps était éternel, et les paisibles zéphyrs caressaient de leurs tièdes haleines les fleurs nées sans semences. Bientôt après, la terre que nul n'avait labourée se couvrait de moissons. Les champs sans culture jaunissaient sous les lourds épis. Alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient çà et là, et lieuses au vert feuillage distillaient le miel blond. Quand Saturne eut été précipité dans le Tartare ténébreux, tandis que Jupiter régnait sur l'univers, vint l'âge d'argent. Qui ne valait pas l'âge d'or, mais valait mieux que l'âge du bronze au fauve reflet. Jupiter resserra la durée de l'antique printemps, l'hiver, l'été, l'automne inégal et le printemps raccourci, partagèrent en quatre saisons l'année mesurée par ses soins. Alors, pour la première fois, l'air qu'embrasaient des chaleurs torrides devint incandescent, et l'eau, durcie par les vents, suspendit son cours glacé. Alors, pour la première fois, les hommes entrèrent dans des maisons. Ces maisons, ce furent des grottes d'épais feuillages et des rameaux entrelacés d'écorce. Alors, pour la première fois, les semences de cérès furent enfouies dans de longs sillons et les taureaux gémirent sous le poids du joug. Puis commença le troisième âge, l'âge de bronze, celui d'une race plus farouche, plus prompte aux combats horribles, sans être pourtant scélérate. L'âge qui a la dureté du fer est venu le dernier. Aussitôt, on fait irruption sur cette terre d'un métal plus vil, les crimes de toutes sortes. Alors on fuit la pudeur, la vérité, la bonne foi. À leur place sont entrées la fraude, la perfidie, la trahison, la violence et la passion scélérate de la richesse. Le marin livra ses voiles au vent, qu'il connaissait mal encore. Après s'être longtemps dressé à la cime des monts, les bois des navires plongèrent dans les flots, nouveaux pour eux. Sur la terre, jusqu'à la commune à tous, aussi bien que l'air ou la lumière du soleil, l'arpenteur défiant traça de longs sillons pour limiter les champs. L'homme ne se contenta plus de demander à la terre féconde les moissons et les aliments qu'elle lui devait, mais il pénétra jusque dans ses entrailles. Il en arracha ce qu'elle y avait caché, ce qu'elle avait relégué près des ombres du Styx, les trésors qui héritent nos maux. Bientôt, le fer pernicieux et l'or, plus pernicieux que le fer, parurent au jour. À leur suite, parut la guerre, qui se sert de tous deux pour combattre, et qui brandit dans sa main ensanglantée des armes retentissantes. On vit de rapine. L'hôte ne se fit plus à l'hôte, ni le beau-père au gendre. Même entre frères, la concorde devient rare. L'époux médite la perte de l'épouse, l'épouse celle de l'époux. D'affreuses marâtres mélangent les sucs livides de l'aconite. Le fils s'informe, avant l'heure, de l'âge de son père. La piété est vaincue, foulée aux pieds. Loin de cette terre trempée de sang, se retire, la dernière, après tous les immortels, la Vierge Astrée.
Ici à Paris, les gens sont généralement pressés. Ils sont soucieux, ils sont à bout de nerfs, entendant sans cesse les voitures passer, les voitures qui portent en elles peut-être un accident, peut-être mortel pour eux, qui les menacent de la patience de leur accélérateur qu'ils font ronfler à l'instant où la lumière va changer, etc. Forcément, des avances humaines courent fortement le risque d'être repoussées. Et ce refus est comme une preuve que l'espoir de cette tendresse est vain. Et pourtant, il faut bien comprendre que les gens ne sont pas toujours dans une disposition heureuse. Ainsi, par exemple, hier, nous allâmes dans ce Paris à moitié vide. J'étais émerveillé pendant le trajet de la place d'Alésia jusqu'à la gare Montparnasse. Et sur le retour, la promenade a duré quelques 3 heures, tout cela à pied, combien tout le monde était content. Tout le monde était heureux, tout le monde me souriait. Tout le monde était prêt à accepter une blague. Je blaguais avec les vendeuses, je blaguais avec le garçon de café, je blaguais avec tout le monde, ils étaient tout prêts à accepter les blagues. Ce qui n'est pas vrai en hiver, lorsque les gens n'ont pas le sentiment d'être en vacances, ou nous autres, les oubliés de Paris, en ce moment, nous avons tous le sentiment d'être tout de même en vacances. Et malgré tout, nous travaillons et pourtant, nous sommes aussi en vacances. Voilà comment il faudrait travailler pendant les 12 mois de l'année. Nous serions tous contents si nous avions le sentiment d'être en vacances, tout en travaillant. Car en vacances aussi, on travaille. Et surtout, cela est vrai, les artistes. Mais comment travaillent-ils? Par exemple, je connais des peintres qui emportent avec eux des toiles, des albums, et s'installant devant un paysage, devant un monument, se mettent à le dessiner ou à le peindre. J'ai tenté de le faire, je n'y parviens jamais. J'achète un carnet à croquis, je l'emporte avec moi, autrefois c'était des caisses avec des toiles, et je ne parviens jamais à peindre ou à dessiner d'après nature. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me touche pas. Ce n'est pas que je n'admire pas mes collègues qui, eux, le font. Je les admire, au contraire. J'admire toujours les gens qui savent faire ce que moi, je ne sais faire. Ce n'est pas mes concurrents directs que j'admire, parce que eux ne savent pas faire autre chose que ce que je sais faire moi aussi. Cela ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est le miracle des hommes qui savent faire ce que j'ignore et combien nombreux ils sont. C'est pourquoi je respecte beaucoup, par exemple, tout technicien, et qui ne l'est pas, du jardinier jusqu'au chef d'un État. Ils ont tous leur savoir-faire.
Pourquoi ne pouvez-vous pas peindre d'après nature? Pourquoi ne pouvez-vous pas rendre alors ce que vous voyez?
Pour la même raison pour laquelle je ne prends pas de photos. Ce n'est pas par raisonnement, c'est par le goût, ce n'est que maintenant, a posteriori, que je cherche avec vous à expliquer la cause, disons, et pas la raison. La cause en est que je pense qu'il y a quelque chose d'ineffable dans un moment vécu. Tout ce que nous pouvons faire plus tard, c'est de chercher à réévoquer en nous ou de provoquer chez autrui un sentiment qui n'est pas le même mais seulement analogue à celui que nous avons vécu, que j'ai vécu.
Vous êtes contre?
Mais non, je ne suis pas contre, je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable.
Alors où situez-vous l'art quand même par rapport à une sensation?
Oui, oui. Eh bien, voyez-vous, c'est un peu comme la nourriture de l'esprit. En l'occurrence, que de vivre un moment, par exemple, devant la maison du village roman. C'est un moment qui est fait de toutes sortes de choses, qui ne peuvent être restituées. Par exemple, il m'est arrivé à un moment donné d'être provoqué dans une discussion à propos du cinéma moderne, et il ne s'agissait pas du cinéma d'animation qui est ma spécialité, mais d'un tout autre cinéma qui est celui qui emploie la photographie des événements réels qui ont lieu afin de les restituer ensuite sur l'écran.
Un peu le cinéma vérité, non?
C'était précisément le sujet de la discussion.
Le cinéma vérité?
Parfaitement. C'était le cinéma vérité que les Canadiens avaient appelé les premiers, c'était ensemble qu'ils avaient formé les premiers. Il l'avait appelé Candid Camera, la caméra candide. Ils ont inventé, entre autres, une caméra formidable. Vous la portez dans une poche, vous n'avez pas besoin d'éclairage particulier, et le film. Vous ne pouvez même pas l'orienter avec précision, vous ne savez pas ce qu'elle prend. Eh bien, la discussion tournait autour de la valeur du cinéma vérité. Certains disaient, oui, mais on monte le film. Par la suite, on choisit déjà, on fait déjà intervenir la volonté créatrice du réalisateur, etc. Moi, je me taisais, m'ayant donné l'ordre de ne pas intervenir dans une discussion où je ne pouvais parler avec la compétence d'un professionnel, ma profession étant tout contraire à celle de ce que l'on entend généralement par le cinéma. Lorsqu'à la fin des débats, le président des débats me provoqua. Je vois M. Alexeïev dans la salle et je voudrais lui demander ce qu'il en pense. Moi, je ne savais pas ce que j'en avais pensé, mais j'avais vécu les débats. Alors, les paroles me sortirent comme si un autre parlait par ma bouche. Et je dis que la musique que l'on entend à la radio n'est pas celle qu'on entend en concert. Je dis que le film que l'on voit sur l'écran n'est pas la réalité que la caméra avait enregistrée. Si c'est un film en couleur, ce ne sont pas les couleurs de la nature. Et si c'est un film en noir et blanc, la nature est-elle jamais noire et blanche? Et c'est pour ça que j'aime le cinéma, parce qu'il me montre le monde autrement que tel que le monde se présente à mon observation dans la vie.
Dernier texte choisi par Alexeïev pour illustrer cet impromptu, l'éloge de la mouche, que Lucien de Samosat écrivit il y a près de 20 siècles. S'agit-il d'une fine observation ou d'une transposition en forme de badinage ?
Pour prouver que l'intelligence de la mouche est loin d'être bornée, il me suffit de dire qu'elle sait éviter les pièges que lui tend l'araignée, sa plus cruelle ennemie. Celle-ci se place en embuscade, mais la mouche la voit, l'observe, et détourne son essor pour ne pas être prise dans les filets et ne pas tomber entre les pattes de cette bête cruelle. À l'égard de sa force et de son courage, ce n'est point à moi qu'il appartient d'en parler, c'est au plus sublime des poètes, à Homère. Ce poète, voulant faire l'éloge d'un de ses plus grands héros, au lieu de le comparer à un lion, à une panthère ou à un sanglier, met son intrépidité et la constance de ses efforts en parallèle avec l'audace de la mouche, et il ne dit pas qu'elle a de la jactance, mais de la vaillance. C'est en vain, ajoute-t-il, qu'on la repousse. Elle n'abandonne pas sa proie, mais elle revient à sa morsure. Il aime tant la mouche, il se plaît si fort à la louer, qu'il n'en parle pas seulement une fois ni en quelques mots, mais qu'il en rehausse souvent la beauté de ses vers. Tantôt, il en représente un essaim qui vole autour d'un vase plein de lait. Ailleurs, lorsqu'il nous peint Minerve détournant la flèche qu'allait frapper Ménélas à un endroit mortel, comme une mère qui veille sur son enfant endormi, il a soin de faire entrer la mouche dans cette comparaison. Enfin, il décore les mouches de l'épithète le plus honorable. Il les appelle « serrées en bataillon » et donne le nom de nation à leurs essaims. La mouche est tellement forte que tout ce qu'elle mord, elle le blesse. Sa morsure ne pénètre pas seulement la peau de l'homme, mais celle du cheval et du bœuf. Elle tourmente l'éléphant en s'insinuant dans ses rides et le blesse avec sa trompe autant que sa grosseur le lui permet. Dans ses amours et son hymen, elle jouit de la plus entière liberté. Le mâle, comme le coq, ne descend pas aussitôt qu'il est monté, mais il demeure longtemps à cheval sur sa femelle, qui porte son époux sur son dos et vole avec lui, sans que rien trouble leur union aérienne. Quand on lui coupe la tête, le reste de son corps vit et respire longtemps encore. Il y a une espèce particulière de grande mouche, qu'on appelle communément mouche militaire ou chien. Elles font entendre un bourdonnement très prononcé. Leur vol est rapide. Elles jouissent d'une très longue vie et passent l'hiver sans prendre de nourriture, cachées surtout dans les lambris. Ce qu'il y a de plus extraordinaire chez elles, c'est qu'elles remplissent à tour de rôle les fonctions de mâle et de femelle, couvrant après avoir été couvertes et réunissant, comme le fils de Mercure et d'Aphrodite, un double sexe et une double beauté. Je pourrais ajouter encore bien des traits à cet éloge, mais je m'arrête. De peur de paraître vouloir, comme dit le proverbe, faire d'une mouche un éléphant.
L'art est la vie filtrée par ce qui constitue l'âme d'un individu. Qu'est-ce que l'âme ? On ne peut pas la photographier. On ne sait pas, on ne connaît pas les mouvements de ce que les humains ont appelé l'âme, qu'on nie son existence, qu'on l'appelle autrement, l'esprit par exemple, le cœur si vous voulez, l'âme si vous voulez.
Ce qui vous intéresse, c'est le potentiel, c'est la force que met un individu en fait.
Voilà, un jour à une enquête écrite, j'avais dit qu'en somme, j'imaginais un vrai peintre, celui qui, enfermé dans une cellule, emmuré, sans aucun document, se mettrait à peindre ou dessiner, sans aucune nature. Ce que lui ferait alors sortirait de lui. Ça ne participerait nullement de l'activité d'un singe ou d'un perroquet, à laquelle d'ailleurs, à l'activité, je ne donne pas sens péjoratif en prenant pour l'exemple le singe ou le perroquet. Ils font de la mimicrie. Mon intérêt pour l'art est tout différent. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est que c'est l'homme qui l'a fait. Et ici, l'ambition de l'homme devient démesurée de notre temps lorsque un animateur de film est capable, comme Prométhée, de pétrir le limon pour lui donner une image humaine, et loin d'être enchaîné en punition au rocher du Caucase, il peut lui insuffler la vie, c'est-à-dire le mouvement, et le tout sort de l'esprit de l'homme, et rien de la machine. Rien n'est document, rien n'est souvenir, rien n'est photographie, rien n'est bande magnétique, rien n'est disque. C'est la vie, c'est l'instant de la vie, éphémère. Et c'est dans l'éphémère que réside la beauté de la vie évanescente. Des moments évanescents que nous vivons, vous et moi, que vivront lorsqu'ils l'entendront nos auditeurs. L'instant qui passe et qui ne reviendra jamais. Et lorsqu'on y reviendra, à force de photographies ou d'autres rééditions ou d'autres reproductions, ce ne sera plus jamais le vrai instant vécu dans toute la virginité de la nouveauté.
Vous avez dit la nouveauté. Est-ce que nous pouvons conclure cet entretien sur ce mot ? La nouveauté, l'imprévu, le moment, la sensation, la chose crainte, en même temps souhaitée.
Je crois, voyez-vous, que lorsque j'arrive, par exemple, dans une ville pour la première fois dans ma vie, ce sera la première impression qui, plus tard, probablement, elle, sera retenue dans le souvenir de ce que l'on a vécu. Je pense que la mémoire est quelque chose comme autrefois était le disque vierge de phonographe qui enregistre son sillon. Et ce ne sont que des endroits vierges qui peuvent être impressionnés par les émotions de l'instant vécu. Je pense qu'un endroit de notre sensibilité, de notre âme, si vous voulez, qui a déjà été impressionné une fois, ne se réimpressionnera jamais encore une autre fois. Ce sera la toute première impression que l'on gardera toujours, quelque chose comme le coup de foudre, lorsqu'on voit pour la toute première fois la femme qu'on aimera toute sa vie, on ne la verra plus jamais aussi bien qu'à ce premier instant.
Lorsqu'on sait cela, lorsqu'on vit cela, est-ce que ce n'est pas redoutable, cette attente du premier instant ?
Il vient sans s'annoncer.
Impromptu de vacances. C'était une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Alexeïev. Texte lu par Bernard Jousset. Collaboration technique Pierre Planès et Josette Morin. Assistant Jean-Marc Siafarikas.
Cette émission a été diffusée la première fois le 2 septembre 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.